c'est quoi la French Touch?
C'était un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
L'histoire secrète de la French Touch.
Ils inventaient quelque chose. Voilà, il y avait une idée de mouvement.
30 témoins, 30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
C'est pas mal votre truc, vous êtes en même temps hyper pointu, hyper expérimentaux, mais hyper populaire, les gens adhèrent.
Daft Punk, Cassius, Justice, Nile Rodgers. Les coulisses de la French Touch par ceux qui l'ont faite.
À l'époque, quand t'entendais de la techno dans une bagnole à Paris, t'allais voir qui c'était parce que tu le connaissais forcément. Les gens disaient c'est la musique du diable, c'est pas de la musique parce qu'il y a le pied qui fait boum boum boum.
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdain.
La French Touch, c'est ça finalement l'histoire à raconter. Hein. À la recherche du succès, puis à la fin c'est Daft Punk qui gagne quoi.
L'histoire secrète de la French Touch. Épisode 6, des raves et des clubs.
Le mot rave, tu le connaissais, personne n'en parlait.
Étienne de Crécy.
On est arrivé dans un endroit, je ne savais pas que ça existait quoi. On est arrivé dans cette péniche, donc où tout était fluo, c'était Goa, quoi. Tous les gens étaient torse nu, nous on venait plutôt, donc on écoutait du hip-hop, rock hip-hop, c'était plutôt dans l'attitude bras croisés, quoi. Et là tu avais que des gens torse nu, qui s'échangeaient les bouteilles d'eau, qui souriaient, tout ça. Une musique de ouf totale, parce que vraiment, cette musique-là, c'était pour moi, c'était le Robit, quoi, tu vois, les trucs belges, là, le dormeur doit se réveiller, pour moi c'était ça, la hip-hop. Et là c'était une musique qui avait rien à voir avec tout ce que t'avais jamais entendu, quoi, c'est vraiment un truc... super étrange. On est sorti le lendemain matin à 10h, vraiment illuminé quoi. Et là on a commencé à s'intéresser aux soirées. Tout d'un coup surtout on a découvert un incroyable monde underground, mais vraiment, parce que t'en entendais parler nulle part, on a dû sortir 3-4 mois. On allait dans un endroit qui était vraiment énorme si tu veux, où tout d'un coup on se retrouvait à 2000 personnes dans un endroit. Et t'avais, mais aucun média n'en parlait. Aucun média n'en parlait. Donc il y avait vraiment un truc. FG en parlait, mais FG c'était une radio. C'était la radio qui était faite dans un appartement dans le 19e, là. Tu vois, c'était pas le FG de maintenant. Et donc on se retrouvait, ouais, des soirées comme ça de 2000 personnes. Et après il y avait des afters. On se retrouvait sur des péniches, sur les quais de la Seine. Avec, à 7h du matin, t'avais 500 personnes qui arrivaient à cet endroit-là. Et j'ai vraiment le souvenir de ça comme une chance incroyable, en fait, d'avoir. J'avais vraiment l'impression qu'on était un tout petit groupe de gens qui savaient exactement ce qui se passait. C'était ça la corrélation de la drogue et de la musique, parce qu'il n'y avait que des drogués par contre dans les soirées. Il y avait, j'exagère, t'avais 24 personnes qui étaient ingam sans droguer, mais sinon c'était que des gens qui étaient défoncés.
Rave. Derrière ce vocable anglais se cachent des soirées ponctuelles qui se déroulent dans des endroits surprenants et qui attirent de plus en plus de jeunes. Et ces soirées, en principe dansantes, ont mauvaise réputation. De la drogue y circulerait.
Je me souviens, ado, d'être allé dans une rave.
Moi, Jeffrey, de Scratch Massive.
Pour le coup, c'était plus de la transcore, quoi. Moi, j'adorais ça, et j'adore toujours ça. C'était vraiment des choses très mélodiques, mais qui sont finalement revenues à la mode depuis quelques années. Et donc, c'était vraiment l'avant French Touch, quoi. Et moi, j'ai découvert la musique électronique par là, par les raves de Bretagne. Ça poussait comme des petits champignons, quoi. On allait chercher les raves partout en Bretagne. S'il fallait même partir à Paris pour un soir, on prenait la voiture, on partait à Paris. Je pense que j'ai dû faire que ça pendant 2 mois. Alors, mes parents étaient fortement inquiets, c'est ce que je peux comprendre. Après, je me suis un peu calmée sur la découverte, mais les débuts étaient vraiment intenses. C'est-à-dire que c'est une musique qui t'emmenait, qui te happait, et en même temps, du coup, tu découvrais tout un monde nouveau, quoi. Une ouverture aussi sur le monde et ses dangers. Et puis, on prenait les voitures, et puis on cherchait, on fouillait dans la nuit, on dormait comme on pouvait, on dormait pas, donc souvent. C'est vraiment quelque chose qui m'a peut-être aidé aussi à ce moment-là de ma vie, je sais pas, qui m'a porté étrangement, qui me laisse un souvenir impérissable. La French Touch est arrivée, c'était déjà très intégré dans la société, c'était différent en fait. Là, on tombait dans les clubs, on tombait dans quelque chose de plus accepté aussi. Même s'il y avait encore des problématiques d'image autour de ça, mais on rentrait dans une acceptation de cette musique.
Moi, j'étais au tout début de la techno, hein, puisque j'étais aux premières teufs dans les années 90-91.
Éric Chedeville, cofondateur du label Cri d'Amour.
Les premières fêtes au château d'Arny, les Mosinor, tous ces teufs-là qu'on commençait à fédérer du monde. C'était hyper confidentiel, la techno, au début. Hein. En 91, il y avait une teuf une fois par semaine au Rex qui s'appelait le Soirée Space, qui étaient les premières mini-rêves, on va dire, avec Laurent Garnier, des DJ comme ça. Et à l'époque, quand tu entendais de la techno dans une bagnole à Paris, tu allais voir qui c'était parce que tu le connaissais forcément. Donc c'était une faune, quoi, dans les rêves au Rex à ce moment-là.
On voit beaucoup dans des fêtes de quelqu'un qui s'appelle Frédéric Agostini et qui organise des fêtes Xanadu.
David Blow, co-organisateur des soirées Respect.
Et les fêtes Xanadu, c'est assez marrant parce qu'il ne veut pas dire qu'on c'est des rêves, parce que les rêves ont une image vraiment connotée drogue et embrouille et musique sinistre. Lui, mais c'est des rêves, c'est-à-dire que c'est quand même d'une liberté totale, toute la liberté des rêves, mais c'est plus house.
Xanadu, X-A-N-A-D-U.
Frédéric Agostini, co-organisateur des soirées Respect, 2005.
La dernière a été mythique parce qu'il y a eu une énorme descente de keufs. T'as Volpénil dans un château et en fait les flics sont arrivés à 3h du mat parce qu'en fait c'est dans un village et le village, la population du village doit être entre 300 et 400 personnes et c'était à peu près le nombre de véhicules qu'il devait avoir devant le château, tu vois. 3h du mat sont arrivés, ouais, qu'est-ce que vous faites là? Donc ils ont dû se renseigner, ils ont dû voir, ouais, c'est une rêve, tout ça. Donc moi j'ai fait un peu le malin, j'ai fait, monsieur, vous n'avez pas de mandat de perquisition, on se revoit. Si j'étais derrière la grille du château, il y a un parc de 14 hectares. Monsieur, nous nous revoyons à 6 heures. À 6 heures, les flics ont en fait été plus une voiture, mais ils étaient une centaine. Plus la BAC, j'ai vu arriver des mecs avec des casques. Tu les as vus, toi? Avec les genouillères et tout. Toi, je voyais qu'il y en avait de plus en plus dans la grille. Et j'ai dit, c'est bon, à 6 heures,
je me barre.
Ils vont ouvrir les grilles et boum, tu vois. Donc moi, j'ai pris le micro vers 6h moins le quart. Il y a des Daft Punk qui jouaient. J'ai arrêté la soirée, je fais voilà, c'était une super soirée, merci à tous. Donc voilà, je vous tenais au ciné, les calapolices dehors. T'en souviens, ça? Je fais, bon, je vous demande, vous allez sûrement être fouillé en sortant. Et à ce moment-là, je vois des mecs dans la salle qui mettent des brassards police.
Quand
je...
Non.
Ouais, il y en avait des civils qui étaient rentrés à l'intérieur, quoi. Moi, entre-temps, j'avais dispatché le peu de bénéfices qu'on avait fait de la soirée hein, dans les soutiens-gorges de mes copines, machin, pour que ça ressorte. J'ai escaladé les grilles de l'autre côté, et je me suis enfui. Ils sont quand même venus chez moi à Paris, peu qu'un campois de Melun, ils étaient hyper vénères. Ouais. Moi, je suis resté 48 heures en garde à vue. J'ai eu un procès un an plus tard. Et c'est vrai que ces gens-là ne jouaient pas à l'époque dans les clubs. Et c'est pour ça qu'ils jouaient dans les fêtes un peu underground, quoi.
Il y a un moment donné, t'as hyper envie de pas rentrer chez toi avec les chaussures pleines de boue. Enfin, tu vois, tout d'un coup, tu vas dans une rave club parce qu'il y a eu des rave clubs. Parce que...
Ils faisaient chier les rêves. Hein. Tout le temps, ils nous faisaient chier.
Philippe Sdard, 2005.
Ils faisaient chier, ils commençaient à faire vraiment chier. Ils se rendaient compte que vraiment tout le monde se défonçait. Donc c'était dingue, c'était supermarché. Que là, il y a eu des rêves dans les clubs. Ça a commencé, je m'en rappelle très bien. C'était dingue. Mais les péniches, c'était un peu ça. Hein. Et endroits un peu plus confinés, tout ça, tu commençais à aimer le confort. Tu vieillissais, voilà, tout ça. Ça, on sait rien, mais il y a eu Respect, tout ça, quoi. Respect qui commence à me faire jouer à Queen, et je commençais à aimer les clubs, plus que la rêve et tout. C'était une suite logique, juste le fait que j'y allais plus, donc j'écoutais moins de techno, j'achetais moins de techno, et donc je descendais vers la house.
Au début, c'est les gays qui sont intéressés à cette musique-là.
Laurent Garnier.
Parce qu'ils ont toujours été très, très avides de nouvelles modes, nouvelles choses. Donc forcément, c'était super excitant pour le milieu gay. Et donc, ils sont assez rapidement appropriés ce truc-là. Je pense qu'un an après, la scène rêve a commencé à naître avec Casana, avec tous ces gens-là qui ont commencé à faire les forts de Champigny et toutes ces soirées-là. Et là, le milieu a commencé déjà à se ramifier. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les clubs et les rêves. En 92, on a commencé à faire Wake Up, on a ramené la musique de rêve dans les clubs, les choses ont commencé à aller un petit peu mieux. Tout ça a commencé à se lier ensemble. Et j'ai bien aimé les rêves au début, mais le fait de jouer dans les clubs m'a toujours plus attiré. Moi, j'ai fait la Luna en 89, 90, jusqu'en 91. J'ai fait le Palace jusqu'à la fermeture du Palace. J'ai fait le Boy jusqu'à la fermeture du Boy. Et puis après, j'ai commencé au Rex et j'ai plus rien fait d'autre. Non mais j'ai joué au Bain-Douche, j'ai joué dans plein d'autres clubs à Paris. Mais je crois qu'à partir de 91-92, j'ai commencé au Rex et j'ai plus jamais arrêté.
Souvent c'était bon, jeudi prochain on sera à la messe. Hein.
Laurent Garnier, 2005.
Voilà, ça c'est la phrase qu'on entendait souvent quand les gens parlaient de Wake Up. Ah bah tiens, on sera à la messe jeudi prochain.
Wake Up, c'était un bouillon de culture.
J'avais l'impression qu'on était en train d'écrire quelque chose d'important.
Ce qui était génial à Wake Up, c'est que déjà, on enregistrait de la musique, tu vois, le mardi ou le mercredi, le jeudi, on l'essayait à Wake Up.
C'était une totale terre d'expérience. Les gens découvraient, la musique changeait. Tu pouvais tout jouer à Wake Up. Puis Wake Up, c'était un club, et comme les rêves étaient en train d'exploser, on pouvait se permettre de mélanger plein de trucs. Hein. C'est forcément un endroit où les gens s'amassaient plus, parce qu'il n'y avait pas tant de soirées que ça, donc de toute façon, on allait dans le peu de soirées qu'il y avait. Les débuts des rêves, ça attirait aussi tous ces gens-là, tout le monde se retrouvait.
L'histoire secrète de la French Touch, épisode 6, des raves et des clubs.
Bah, les clubs, j'avais gardé un souvenir pas terrible.
Dimitri from Paris.
Et puis avec les débuts de la house, ça a été un peu le début de la culture DJ. Et on a commencé à avoir les premiers guest DJ. Et c'est à ce moment-là que un peu mon passé de DJ à la radio m'a un peu aidé, puisque j'avais déjà un nom. Et certains des nouveaux promoteurs, qui étaient des gens beaucoup plus jeunes que moi la plupart du temps, avec en premier lieu quelqu'un comme Pedro Winter, qui a commencé sa carrière comme assistant d'un programmateur AFG. Il me connaissait via la radio, et ça a été un des premiers, voire le premier, à me booker en tant que guest DJ dans les soirées que lui organisait au Folies Pigalle.
J'avais 20 ans, en 95 exactement.
Pedro Winter.
J'étais inscrit en fac de droit. Bon, j'ai pas beaucoup mis les pieds dans l'amphithéâtre, je dois vous avouer. Et en fait, j'ai eu la chance que Axel du Folies Pigalle, qui était le grand Manitou, en tout cas des nuits parisiennes du milieu des années 90, et donc un soir comme ça, il me dit « Tiens, Pedro, tu viens tout le temps à nos soirées, peut-être qu'un jour, lance-toi et organise ta propre soirée. » Et puis il me donne deux jeudis par mois. Et j'arrive avec un concept de house new-yorkaise, très soulful, disco, dansant, joyeux, gay. Et donc pour ça, je choisis quelques DJ résidents, et notamment DJ Grégory, qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Il était aux côtés de Dimitri From Paris, Patrick Vidal, et même Chris de French Kiss, avant qu'il devienne Bob Sinclair, qui venait mixer aussi aux Folies. J'ai dû en faire 5-6 aux Folies Pigalle, et ensuite un jour, je reçois un coup de téléphone d'un certain David Guetta, qui m'appelle et qui me propose donc de reprendre le fumoir du Palace, qui était ce premier étage, un club dans un club, disons, 200 personnes, avec un deuxième portier, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord rentrer dans le Palace, puis ensuite, pour monter à l'étage, séduire le deuxième physio, et voilà. Et en haut, l'idée, finalement, c'était une façon pour moi d'incruster les gens qui n'avaient pas le droit de rentrer au Palace. Et ben, j'arrivais à les faire rentrer, donc c'était les skateurs, c'était voilà, des mecs qui écoutaient du rap, mais qui avaient envie de découvrir la musique électronique, quoi.
Tout le monde s'arrachait pour rentrer dans cette putain de résoie.
DJ Grégory, 2005.
Là, Pedro, il a fait un truc, donc c'est de, on tournait tout le temps. Et il y avait les Daft, il y avait Dimitri, il y avait Zdar, il y avait moi, il y avait Cyril, il y avait machin, et tout le temps, on jouait tout le temps.
Pedro fait appel à nous quand il a le fumoir du Palace.
Bob Sinclair.
Il était tout fou là, tout jeune, plein d'ambition, et il avait pris le premier étage du Palace, où il y avait un bar, ils appelaient ça le fumoir, et on bricolait des sons. Alors en bas, ça passait de la musique commerciale, house, c'était plutôt gay, et au premier étage, on se réunissait là, tu vois, ça, c'était fou.
Alors, je mixe au fumoir.
Dimitri from Paris.
Toujours sous le booking de Pedro. Ça se passe pas bien avec David Guetta parce qu'il vient me faire des remarques. Il me dit on joue pas de rap ici. Je me souviens très bien, j'avais joué The Message. Pas extrêmement agressif ni militant. Alors, il y a un contenu social, certes. C'était pas pour faire un statement politique. Je jouais parce que c'était un bon disque et qui en plus fonctionnait avec les gens. Donc c'est pas comme si j'avais vidé la piste.
C'est complètement grâce à ces soirées, en tout cas, que j'ai lié quelque chose avec toute cette scène. Il y a évidemment une forme de confiance qui est née. Et c'est à la suite de ces soirées que Thomas et Guy-Manuel de Daft Punk me proposent de devenir leur manager. On peut se dire, tiens, c'est marrant, toute la French Touch est née là-bas, puisque c'était l'année avant que tous les disques, en tout cas, que Homework, que Cassius, que Bob Sinclair sortent. Nous, on profitait de l'instant, mais rien n'aurait pu dire que nos chemins allaient continuer voilà, pendant 30 ans. Quoi.
Le nom Respect vient d'Yvan Smag pour Respect A, et on l'a décliné, Respect, chaque semaine, on annonçait des DJ, parce qu'on s'est tellement foutu de nous que c'est un peu respectez-nous.
David Blow, co-organisateur des soirées Respect.
Alors attention, quand je dis qu'on s'est foutu de nous, c'est pas que les étrangers. Hein. En France, il y a une résistance hallucinante, mais même de gens à Actuel et Nova que je respecte, ils sont anti cette musique-là. Le Queen nous facilite la tâche sur un truc, c'est que c'est gratuit, et donc ça va devenir une des forces de Respect. La première, ça sera le 2 octobre 96. Pour la petite histoire, la première, on veut justement Chaz, Saint-Germain. On essaye quand même de faire des choses un peu gays, de mélanger un peu tout ça. Il se trouve que ça s'annule au dernier moment et que j'appelle Thomas Bangalter pour lui dire bah, « Désolé, est-ce que tu veux ?» Et Thomas, oui, bien sûr. Donc la première, il y aura les Daft Punk. Donc Daft Punk, ils n'ont pas sorti leur premier album et tout ça, mais c'est quand même un nom qui commence à circuler. Et il y a eu, je crois, 1700, 1800 personnes de la première, donc ça a été un succès quasi instantané. Et on amène donc un public nouveau, on amène notamment, mais ça on les connaît pas, hein, des gens qui vont se mettre à danser comme ce qu'on voyait nous quand on allait à New York, un des rares endroits où la house et le hip-hop pouvaient un peu se mêler. Et donc il y a des cours de danse, des breakers, un peu de vogueurs aussi, mais on va dire plutôt des breakers, mais enfin c'est à peu près la même mouvance quand même. Et ils font des cercles de danse. Et ça, mais là on l'avait pas du tout vu venir, de même qu'à la base ils rentraient pas au Queen. Et effectivement, rendre des mecs de banlieue, enfin, c'est du cliché, mais voilà, et nous on se bat quand même un peu furieusement pour dire eh oh, c'est pas parce qu'ils sont noirs ou arabes qu'ils rentrent pas dans le club, c'est pas parce qu'ils ont des casquettes qu'ils rentrent pas dans le club. Donc ça, on fait un mélange entre des mecs un peu des lecteurs des In Rock ou de Magic qui sont tout timides et qui viennent dans leur première fête, des gens qui sortent tout le temps, des gays qui sortent tout le temps.
Évidemment, ça crée une super ambiance, que tout le monde est là, regarde, applaudit, c'est nouveau. Tout ça se mélange avec les clients habituels du carré VIP qui trouvent ça sympa parce que ça leur change du train-train d'habitude. Le Queen est ravi parce que le mercredi, c'était à moitié fermé, donc là, ils ont une salle comble, le bar fonctionne, ils sont ravis, ils disent « revenez quand vous voulez, on vous soutient ». Donc voilà, tout était un peu génial, personne n'était là à dire « oui mais », donc c'est assez exceptionnel.
Pourquoi à un moment on a fait la meilleure soirée au monde, on va dire, peut-être.
Jérôme Viguet-Coller, co-organisateur des soirées Respect 2005.
Pourquoi? Parce que c'était un concours de circonstances. Il y avait une scène électronique, rêve, techno, house, on va dire, house gay, tu vois, avec plein de chapelles déjà. Mais à un moment, t'as eu quand même un blocage, tu vois, un truc qui a été contenu en France parce que les In Rock disaient que c'était de la merde, parce que encore les autorités, machin, parce que de Chavannes, c'était la musique de nazi, tu vois, avec des clichés tellement énormes. T'avais les médias, t'avais les disquaires, t'avais les DJ, tout le monde était à bloc, quoi. Et ça, à un moment, quand tu lâches, ça a aussi créé un truc qui avait peut-être dans aucune ville du monde à cette époque, parce que le mouvement n'avait pas été contenu comme ça, alors qu'il y avait des vraies bases. Et là, on lâchait tout. Et tout d'un coup, ah ouais, les Américains, qu'est-ce qui se passe là? Il y a 20 mecs qui savent faire des pochettes, on a de la musique, tu vois, tous les DJ sont là, il y a tout un système. Et les Français ont su, là, à un moment, se retrouver au moment où...
Finalement, la seule soirée...
Dimitri from Paris.
Très clairement lié à ce mouvement, c'est Respect Kiss Burning. Pourquoi? Parce que tous les intervenants de la French Touch y sont passés. Alors, il y en a à New York, il y en a à Los Angeles, il y en a en Australie, à Melbourne. Il y a même un truc totalement improbable où Melbourne voulait absolument une soirée respect le même soir que Sydney. Ils ont dit c'est pas grave, on vous paye un jet privé. Et donc on a joué. Il y avait une soirée respect pour le nouvel an à Sydney, et après toute l'équipe est partie en jet privé pour aller à Melbourne 45 minutes de vol plus tard et faire la deuxième partie de soirée là-bas.
Alors, c'était quand même vie jet set misère.
Ouais, c'est ça quoi.
David, Jérôme et Fred, co-organisateurs des soirées respect 2005.
On vivait vraiment comme des rockstars, mais bon,
on faisait les branleurs, tu vois, il y avait des niveaux qui t'attendent à la sortie du truc, mais bon, qui te battaient pour être surclassé, t'as une chaîne. Mais quand même, peut-être t'es là, t'avais ta carte bleue qui marche pas, t'es là, t'es à Miami, bon, t'es super bien, t'es complètement absurde.
Des gens comme Dimitri ou Bob Sinclair qu'on voyait avant à Paris, je veux dire, après, c'est des gens, ils sont tous les week-ends ailleurs, et quand on les voyait, c'était dans nos fêtes, ou dans des fêtes ou à la conférence. Ils étaient bookés à l'étranger, plus qu'en France, mais quand même beaucoup moins bookés.
Bob Sinclair, Bob Sinclair, qu'est-ce que c'est?
It's Bob Sinclair, because you have no eye. Ah. And I know all the English people, American people say Sinclair, I don't know why, maybe it's usual. They used to have this name in their country, but it's Sinclair.
You hear that? It's Sinclair.
Et c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé qui allait nous arriver. Donc tout ça, ça faisait partie un peu du folklore, c'était rigolo.
Dimitri from Paris.
Mais effectivement, il y a eu des histoires avec Bob Sinclair qui avait démarré à la base comme un concept. C'était affiché, attention, Bob Sinclair n'est pas un DJ, c'est un concept. Et donc on pouvait avoir le concept Bob Sinclair mis en action par différentes personnes. Et puis au bout d'un moment... Des gens se plaignaient que quand ils voulaient booker Bob Sinclair, ils ne voulaient pas qu'il soit dans la ville d'en face. Donc Bob Sinclair, qui avait eu l'idée du concept, Christophe Lefrien, qui avait l'idée du concept, a rapatrié tous les Bob Sinclair en une seule personne.
Allô, ici Bob Sinclair.
À un moment, il y avait 3 ou 4 Bob Sinclair, tu vois.
DJ Khan.
À l'époque du premier album de Bob Sinclair, quand ils avaient pris un mec pour faire les photos, il y a des fois des soirées, il y avait 3 Bob Sinclair en même temps. Bon, les mecs, ils ont eu un peu les boules.
Il y a eu Bob Sinclair qui n'était pas Bob Sinclair, qui n'était pas Chris, qui était Black Joy et qui a fait Bob Sinclair. Et qui s'est retrouvé en panique devant les cieux.
Ouais.
Et heureusement, on était là, on l'a un peu aidé parce qu'on était complètement tétanisé, parce qu'il y avait trop de monde. C'était une espèce de rave de balade dans le parc de Istanbul. Et le mec, il était en panique. Il avait mixé 2 fois dans sa vie. Il s'est retrouvé avec 4 personnes, il perdait 50 kilos en transpirant. On lui dit, attends, t'inquiète, ça va bien se passer. Les Turcs, ils sont sympas. Mais c'est vrai qu'il y a eu ça plusieurs fois.
Il y en a des légendes. Non, au départ,
Bob Sinclair,
comme je commençais à jouer et quand même à gagner de l'argent, j'amenais mon ami DJ Yellow avec moi pour jouer en back-to-back, pour qu'il gagne un peu d'argent aussi, parce que je commençais à gagner, il lui gagnait rien. Donc si tu veux, on a partagé ça pendant au moins 2-3 ans. Mais finalement, moi, comme je faisais toutes les photos, les gens voulaient me voir moi plus que sur le devant, en tout cas dans les clubs. À ce moment-là, en tant que Chris de French Kiss, je ne suis que producteur sur le label Yellow. Je fais quelques maxis sous Bob Sinclair, mais je n'imagine pas un jour vivre ma vie à travers Bob Sinclair, qui va être un DJ, qui va voyager dans le monde entier. Ça n'est même pas concevable. Je dis, mais moi, je voulais rester caché parce qu'on ne pouvait pas être artiste sur un seul projet. Même aux États-Unis, les Américains, Masters at Work, Roger Sanchez, David Morales, ils font des projets sous différents noms pour pouvoir exister sur plusieurs labels différents, mais ils ne veulent pas se contenter de faire une seule musique sur un label parce qu'ils ne pensent pas que leur nom va être une marque identifiable dans les années qui viennent pour pouvoir jouer sur leur nom d'artiste. Mais ce n'est pas grave, je vais en Angleterre, je commence à faire de la promo et petit à petit, il y a des demandes de DJ Bob Sinclair et je commence à jouer sur ce nom-là.
Même si moi je sortais aux soirées respect et tout ça régulièrement, mais et c'était sympa et tout ça, mais j'avais rien à y faire.
Fanny du Pulp.
Quand on t'inclut pas dans un monde, tu vas faire ton monde ailleurs. Et on était une bande de meufs et on n'était absolument pas inclus dans ce monde-là de ce qu'on appelait la French Touch à l'époque. C'est pas à moi de dire pourquoi, mais c'est vrai que ça devient assez hype le Pulp. C'était quand même un club de lesbiennes, faut pas l'oublier. Et on a décidé d'ouvrir les jeudis aux garçons hétéros. Et le vendredi, c'était plutôt LGBT, friendly, et ainsi de suite. C'était quand même boulevard Poissonnière, donc ça nous faisait beaucoup rire. C'était à côté du Rex. Et nous, sur les flyers, on mettait boulevard Poissonnière, métro Morue. Please come home. I love you, girl.
C'était une toute petite boîte, assez pourrie. Tu rentrais, t'avais le vestiaire, tu longeais un bar, c'était tout rouge dedans. Les tapisseries se cassaient la gueule. Il y avait des espèces de moulures en plâtre qui se décomposaient un peu. Voilà, pas assez de toilettes pour tout le monde, donc une queue de fou aux toilettes. En même temps, il y avait une vraie vie aux toilettes, c'était un autre endroit. Une sono assez pourrie, on va dire. Donc la journée, c'était un dancing pour les personnes âgées. Il fermait à 19h, il y avait le ménage qui passait, qui nettoyait tout, et hop, nous on rinquillait, on arrivait à 11h le soir et on ouvrait à minuit, quoi, jusqu'à 6h du mat, quoi.
You want some more?
Yeah.
Dans un club avec une capacité de 300 personnes, on arrivait à faire rentrer 900 personnes en une nuit, quoi. Donc c'était très chargé. C'était un peu le frisson de l'interdit, un peu le pulp peut-être, entre le fait que c'était une boîte de lesbiennes, le fait que c'était un peu sauvage. C'était assez sauvage comme boîte.
Hanging out in the reception, chain smoking cigarellos. For this space case nonchalance, attitude. More, more, more.
Elle est là, la rupture, avec toutes les années précédentes qui étaient dominées par la French Touch, où c'était très bon enfant, la French Touch. C'était les filles sont jolies, tu vois, elles ont des couronnes de fleurs dans les cheveux, tout le monde est bien propre sur lui. Le pulp, c'est sale, quoi, c'est un peu crado, avec un truc, une charge sexuelle, un truc un peu dark, assez forte.
Hello and welcome to Maximum DJ Sex Toy Mix. This is not rap music. This is fuck music.
Freaky bodies. Freaky bodies. This is hot. This is hot.
Toute la scène qu'on a fait, qui a émergé au pulp, a continué à faire sa vie. En fait, et à continuer derrière sur les scènes internationales. Donc, on va faire émerger une scène, bien entendu, quoi. Jennifer Cardini arrive de... Elle était déjà DJ dans le Sud, dans plutôt la scène rave. Miss Kittin, qui était déjà présente, vient jouer. C'est ce qu'on appelle des rôles modèles, en fait. On a fabriqué nos propres rôles modèles, on va dire.
À suivre. Épisode 7. La folie Stardust.
En juillet 98, le titre est sorti. C'est irréel parce que tu l'entends au supermarché, tu l'entendais, t'allais dans les cafés, tu l'entendais dans les clubs, tu l'entendais, c'était partout.
Freaky bodies.
dripping from the sea, sweat all over my body, sweat dripping from your face, freaky bodies, this is hot.
L'histoire secrète de la French Touch est un podcast original de France Inter.
This is hot.